Notre bonne vieille planète Terre ne possède qu'un seul satellite et c'est la Lune, objet le plus brillant dans le ciel après le Soleil. La Lune fascine les hommes depuis la nuit des temps et si les mythologies débordent d'imagination pour expliquer l'origine de la Lune, les astronomes travaillent toujours à proposer les meilleurs scénarios pour expliquer le processus de sa formation et les ingrédients qui la composent. C'est donc le dossier cet après-midi de La Tête au Carré avec vos messages, toutes vos questions à nos invités, franceinter.fr et le mot-clé la TAC. Les jeux vidéo violents sont-ils générateurs de stress? C'est aujourd'hui à la une de la science, Axel Villard.
Une nouvelle étude française l'affirme et apporte une démonstration expérimentale. Vos questions et vos réactions sur Twitter, hashtag l'attaque.
Violaine Ballet est aux commandes de l'émission qui a été préparée aujourd'hui par Nassim Chik.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Notre satellite, la Lune, donc au cœur du dossier de La Tête au Carré cet après-midi avec mes invités, l'astronome Bernard Melgen. Vous êtes en duplex des studios de France Bleu Loire-Océan à Nantes. Bonjour à vous.
Bonjour Mathieu Vidard.
Et puis à mes côtés, en studio, le spationaute Jean-François Clairvoy. Bonjour.
Bonjour.
Bernard Melgen, la Lune fait toujours l'objet de recherches pour les scientifiques, puisque hier, par exemple, une nouvelle publication est sortie dans la revue Nature qui vient confirmer la théorie de l'impact pour expliquer la formation de la Lune.
Oui, cette hypothèse de l'impact géant, ce qu'on appelle l'impact géant, on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est qu'une planète de la taille d'environ de Mars aurait percuté la jeune Terre à ses tout débuts. Et donc, ce scénario a été modélisé récemment de nouveau par de puissants ordinateurs. Et les deux astrophysiciens américains qui sont à l'origine de ça, c'est William Hartman et puis Robin Canup, c'est une astrophysicienne et c'est elle-même qui fait paraître un article dans la revue qui confirme cette hypothèse de la naissance de la Lune par cet impact géant.
Voilà, donc ce serait pour l'instant la théorie la plus solide, la plus sérieuse. Jean-François Clairvoy, le premier homme sur la Lune, c'est évidemment en juillet 1969. Le prochain, ça pourrait être quand, sérieusement?
Tout le monde s'interroge parce qu'il n'y a aucune agence spatiale à ce jour qui a dans ses tablettes un programme décidé d'envoi d'hommes ou de femmes sur la surface de la Lune. Mmh. On prête aux Chinois cette attention, mais officiellement ils ne l'ont pas. Aujourd'hui, c'est un programme d'exploration robotique avec des rovers. Il y en a un qui est déjà dessus, qu'on appelle le Lab Panjad, qui a eu des problèmes, mais ils envisagent d'en envoyer un autre. Aux États-Unis, le Congrès milite pour un retour sur la Lune, alors que la Maison-Blanche, l'administration américaine, commande à la NASA les études en vue de missions vers des astéroïdes, dérouter un astéroïde, le mettre en orbite autour de la Lune et démontrer la capacité de faire de l'exploration d'astéroïdes pour changer par rapport à la Lune qu'on connaît déjà. Mais la NASA, en fait, continue d'étudier l'implantation éventuellement d'une base habitée sur la Lune. Et je pense que dans les 10-15 années qui viennent, on reconnaîtra peut-être un homme ou une femme sur la Lune.
Vous en rêveriez, vous, qui avez déjà 3 vols spatiaux à votre actif, de faire ces 380 000 km pour aller poser le pied sur la Lune?
Ah oui, mais c'est rien, 380 000
km. C'est à côté,
À la vitesse d'environ 10 km par seconde, qui sont la vitesse des vaisseaux spatiaux habités d'aujourd'hui.
On y va encore en
3
jours.
On met une dizaine d'heures. Et puis après,
10 heures, carrément.
Oui, et puis une fois arrivé sur place, on est en orbite de la Lune, il faut séparer le vaisseau en deux pour garder le vaisseau retour en orbite, ça ne sert à rien de le descendre.
Ouais.
Et avec son carburant, alors que il faudra le remonter après. Donc on descend que ce dont on a besoin à la surface. Mais bien sûr, j'irai tout de suite.
Bon, on en reparlera avec vous tout à l'heure. Et puis on vous retrouve également Bernard Melgen. Donc pour évoquer la Lune, vous êtes l'auteur d'un livre, La face cachée de la Terre, qui vient de paraître aux éditions de La Martinière. Et les messages des auditeurs sont également sur nos écrans, franceinter.fr. Et à la une de la science aujourd'hui, une nouvelle étude à charge contre les jeux vidéo violents.
On y va ! Déployez vos lignes ! Bienvenue à la fête, bravo ! L'opérateur de tourelle Zulu est mort. Je répète, Zulu est mort.
Voilà, extrait du jeu Call of Duty par exemple. Les jeux vidéo violents augmentent-ils le niveau de stress ? Laurent Beck, bonjour. Allô, Laurent Beg.
Allô, oui.
Oui, bonjour, vous êtes en ligne avec nous depuis Grenoble. Vous êtes professeur de psychologie sociale à l'université Pierre Mendès France. Et c'est vous qui signez cette étude parue la semaine dernière et qui commence à faire pas mal de bruit sur le web. Elle est intitulée « Les jeux vidéo violents augmentent le niveau de stress émotionnel ». Et pour en parler et commenter cette étude, nous sommes également toujours par téléphone avec vous, Michael Stora. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Laurent Beck, d'abord, la méthodologie. Vous avez utilisé un procédé assez original pour cette étude, puisque vous avez utilisé une machine qui ressemble étrangement à un détecteur de mensonges. Expliquez-nous.
Oui, alors c'est un appareil qui mesure le stress vocal. Effectivement, c'est un dispositif expérimental qui, à partir d'échantillons de phonèmes, va calculer la présence de stress dans la voix, qui est induite par des tremblements de muscles du larynx. Mm-hmm. Et donc c'est une méthode qui est en développement. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on a des recherches qui établissent le lien entre la pratique de jeux vidéo contenu violent et le stress. Il y a des recherches qui se basent par exemple sur l'activité cardiaque, sur la pression sanguine, sur l'éveil physiologique. Nous avons d'ailleurs contribué à une des études sur l'activité cardiaque. Là, nous souhaitions finalement utiliser une nouvelle méthode, bon, qui est encore en développement, encore une fois, qui ne pourrait pas être utilisée, par exemple, pour détecter les mensonges, mais simplement pour évaluer s'il y a des variations de niveau de stress dans la voix de quelqu'un consécutivement à une pratique immersive dans laquelle on est amené effectivement à devoir éviter d'être abattu dans un environnement qui évidemment est très immersif donc et potentiellement stressant. Et donc nous observons qu'après une séquence de 20 minutes à jouer à des jeux vidéo comme Call of Duty par exemple, comme Deadpool, bien, le club, eh bien des joueurs ont un niveau de stress vocal supérieur à des joueurs qui jouaient à des jeux d'action tout aussi excitants, immersifs, mais qui ne comportent pas de contenu violent.
Alors, vous avez testé ce procédé sur 87 joueurs, donc ça, c'était vraiment pour le protocole. Et comment est-ce que vous avez analysé, justement, le stress vocal, précisément ?
Alors, il s'agit, en fait, de se baser sur des séquences donc, qui sont échantillonnées à partir des phonèmes donc, de la voix des participants. Et ensuite, on va donc comparer en fait le niveau de fréquence vocale des joueurs en fonction de leurs conditions expérimentales pour établir si le niveau de variation et donc d'indice de stress est plus important dans tel ou tel groupe. Donc ce qui va ressortir, c'est qu'effectivement on a un niveau de stress qui va être mesuré par des fréquences hertziennes qui est plus élevé dans le groupe ayant pratiqué des jeux violents.
Mais vous avez demandé aux personnes qui se sont prêtées donc à ces étudiants à cette expérience de lire un texte particulier, je crois. Hein.
Oui, alors c'est un texte standard qui effectivement a pour fonction d'élever le niveau de stress dès le départ, puisqu'effectivement c'est un texte qui parle d'un génocide, donc c'est une histoire qui est elle-même chargée émotionnellement, qui donc induit déjà un niveau d'éveil important, et ensuite on va essayer de voir si cet éveil est potentialisé, élevé davantage encore par la pratique d'un jeu donc vidéo violent. Donc les textes étaient les mêmes dans les deux cas.
Pour vous, la conclusion, donc, ce sont que les signatures de stress et d'agressivité sont plus nombreuses chez les personnes qui ont joué aux jeux de guerre. Alors, un mot avec vous, Michael Stora. Vous avez lu cette étude de Laurent Beg. Comment avez-vous réagi? Quelle est votre analyse?
Alors, on va dire d'abord, au fond, moi, je remets en cause, d'une manière générale, la plupart des protocoles de recherche mettant en scène des humains dans des situations de laboratoire. Nous sommes beaucoup à penser qu'il y a tellement de biais. Il s'avère même que dans certaines expériences avec les rats, on se rend compte qu'eux-mêmes ont des émotions et que leurs émotions changent selon les jours même. De plus, moi, ce qui me pose toujours question, c'est qu'est-ce qu'on appelle un jeu vidéo à contenu violent. Les trois jeux qui sont utilisés, donc Condemned 2, The Club et Call of Duty, sont très différents aussi bien dans leur ergonomie, et de plus parce que, par exemple, dans Condemned, vous incarnez une sorte de flic quasiment psychotique. Dans The Club, vous êtes des psychopathes. Et dans Call of Duty, vous êtes un soldat, on va dire, qui n'a pas vraiment d'âme, à part le fait qu'il est dans des stratégies guerrières. De plus, on ne sait pas est-ce que ces jeunes qui jouent avaient déjà une capacité à bien jouer, parce que le niveau de stress est très élevé quand, en général, vous commencez un jeu et que vous n'y arrivez pas, parce que vous n'avez pas de contrôle. Et en plus, on sait très bien que les jeux vidéo, en effet, proposent des sentiments d'immersion assez puissants et qui font que votre attention est tellement focalisée qu'évidemment, le but étant d'avancer dans le jeu et de gagner, et que ça donne un certain niveau de stress qui d'ailleurs est paradoxalement utilisé, comme vous le savez peut-être, pour des enfants hyperactifs qui en général ont un gros souci pour focaliser leur attention et qui, dans les jeux vidéo, ont une grande capacité de focalisation de l'attention. Donc c'est vrai que D'une certaine manière, M. Beg avait déjà lui-même fait un travail de protocole de recherche qui était, au fond, les jeux vidéo violents ont tendance à rendre assez méchants et agressifs. Là, on est à un autre niveau, c'est-à-dire d'élever le niveau de stress. Ce qu'on peut remarquer en général, c'est que le niveau de stress est très élevé, surtout lorsqu'on perd. Bon, c'est assez humain, c'est totalement banal. Donc c'est vrai que je trouve ça intéressant que des chercheurs, surtout français, s'intéressent à l'idée d'évaluer les jeux vidéo. En général, c'est vrai que c'est plutôt à charge, ce qui est bien dommage parce que mon utilisation, comme peut-être vous le savez, d'utiliser les jeux vidéo violents, en tout cas des jeux vidéo auprès d'adolescents qui eux-mêmes ont des troubles du comportement violent, m'a montré au contraire qu'il y a un effet cathartique tout à fait intéressant.
Donc vous l'utilisez dans le cadre de thérapie, hein, Michael Stora.
Tout à fait.
Axel.
Et justement, dans l'actualité des publications, on trouve des publications qui vont dans l'autre sens et qui disent que les jeux vidéo, même violents, pourraient avoir un effet déstressant. Comment vous vous placez, Laurent Beck, par rapport à ces publications-là ?
Écoutez, ces publications sont finalement minoritaires, en fait, par rapport à une méta-analyse qui a été publiée sur le sujet dans un papier de Craig Anderson, qui effectivement compile 130 études, 130 000 personnes, et met en évidence que la pratique de jeux vidéo violents élève l'éveil physiologique. Donc je dirais, il y a toujours en fait dans tous les domaines de la science des recherches qui se contredisent. La seule manière de trancher, c'est évidemment de cumuler des recherches issues de laboratoires indépendants et d'établir les grandes tendances. Alors c'est pas évidemment la parole de Dieu, hein, c'est simplement des tendances scientifiques à un moment donné, mais il est raisonnable d'y adhérer, puisqu'effectivement on n'a pas d'autre moyen de le savoir. Alors les vertus cathartiques que M. Stora, je dirais, attribue au jeu, peut-être qu'il observe dans son laboratoire ou dans son cadre, je dirais, thérapeutique, mais la plupart des chercheurs, en tout cas, considèrent que cette hypothèse est totalement erronée. Mais bon, la psychanalyse, effectivement, est habituée à ce type d'hypothèse.
Ouais, Michael Stora, on voit à quel point cette question divise toujours. C'est incroyable, hein. La question des jeux vidéo, ça fait des années qu'on en parle, et les conclusions sont toujours très commentées, réfutées par les uns ou par les autres. On n'arrive pas, finalement, à savoir réellement ce qu'engendrent ces jeux sur les personnes qui sont aux commandes.
Oui, c'est vrai. Alors, il y a sûrement une problématique générationnelle. Au fond, même si le jeu vidéo existe depuis plus de 25 ans maintenant, ça reste quand même un objet un peu inquiétant parce qu'il est nouveau, parce que on a quand même beaucoup de parents inquiets encore et toujours. Et c'est évident que, au fond, on prend pas toujours le temps de réfléchir dans le contexte dans lequel on joue. Au fond, à quel moment de sa vie on va jouer. Et c'est vrai que je pense que les approches qualitatives, qui d'ailleurs aux États-Unis ont de plus en plus de succès, c'est-à-dire qu'on va suivre un individu sur plusieurs mois, voire plusieurs années, prendre en compte sa réalité historique, sa réalité socio-culturelle, va nous donner des indices de compréhension à quel moment on joue. Et je pense que c'est peut-être cette tendance-là. Et j'ai toujours un peu peur des protocoles qui finalement réduisent l'être humain dans une situation de laboratoire sans prendre en compte ce qu'il est, à quel moment il va passer cet examen, etc. Voilà, ce sont des questions, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet.
Et Laurent Beg, est-ce que vous pensez qu'il y a une bonne utilisation des jeux violents ?
Écoutez, d'abord, bon, effectivement, il s'agit d'inscrire la pratique des jeux dans l'histoire des participants. C'est-à-dire que personne ne considère que la pratique occasionnelle d'un jeu vidéo à contenu violent va transformer quelqu'un en personne très agressive. Les travaux de recherche suggèrent simplement que la pratique cumulative et répétée de jeux violents, et c'est pas moi qui l'affirme, hein, je veux dire l'Association américaine de médecine, de psychiatrie, enfin on a maintenant un certain nombre d'académies qui finalement convergent dans ce sens. Donc bien sûr, on peut se poser, avoir une parole originale, comme là, M. Stora, mais encore une fois, la question est plutôt quelles sont les conclusions de recherche empirique. Alors, sur le terrain, par exemple, lorsqu'on fait jouer des jeunes enfants et qu'ensuite on les regarde en cours de récréation, par rapport à des jeunes enfants qui jouent à des jeux d'action, simplement, on observe des comportements différents. Ce n'est pas simplement le cadre stérile du laboratoire. Les enquêtes longitudinales qui consistent à suivre des personnes plusieurs années en mesurant les relations entre les pratiques ludiques en temps 1 et les comportements en temps 2, en maintenant constant, je dirais, les pratiques, l'agressivité en temps 1, montre bien aussi qu'il y a une corrélation entre la pratique du jeu à contenu violent et l'agression. Donc je crois qu'il y a des données convergentes. Par ailleurs, des travaux montrent également que la pratique de jeux vidéo à contenu coopératif et prosociaux développent des effets inverses. Donc je dirais que tout va dépendre du contenu dans lequel les personnes s'immergent.
Bon, bah, en tout cas, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord, mais c'est intéressant de pouvoir avoir un éclairage original de part et d'autre à la suite de cette publication donc sur les jeux vidéo violents qui augmenteraient, en tout cas pour vous, Laurent Beg, le niveau de stress émotionnel. Merci à tous les deux. Merci Michael Stora également.
Merci.
Bonne journée. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, flûte alors, pas de rockstar chez les Néandertaliens, une flûte découverte il y a 20 ans en Slovénie et considérée jusque-là comme le plus vieil instrument de l'histoire, 43 000 ans d'ancienneté, ne serait en fait qu'un vulgaire fémur d'ours. Les perforations circulaires qui ont trompé les chercheurs seraient le fruit des morsures d'une hyène. Le plus vieil instrument de musique connu aurait donc 3 000 ans de moins, moins 40 000 ans. Il s'agit d'une flûte, là aussi, découverte dans le sud de l'Allemagne et appartenant à Homo sapiens. Des algues en guise de route, c'est le pari de chercheurs nantais et orléanais du CNRS qui ont mis au point un biobitume en valorisant des résidus de microalgues. Le produit en cours de test présente des propriétés similaires au bitume classique, mais permet de ne plus dépendre du pétrole ou des huiles agricoles. Un parfum anti-sueur, le beau temps arrive, et avec lui les auréoles glamour sous les aisselles. Et bien heureusement, des chercheurs irlandais ont mis au point un parfum qui libère une quantité d'arômes proportionnelle à l'humidité de la zone d'application. Le produit évite aussi le mélange des odeurs de sueur et de parfum grâce à un liquide ionique qui attire le thiol, le composé organique responsable des effluves, les rendant aussi presque inodores. Mais attention, lever les bras restera toujours aussi voyant. Et puis un chiffre pour terminer, celui des dons du Téléthon en 2014. 92 millions d'euros ont en effet été collectés en décembre dernier pour aider la recherche médicale contre les maladies génétiques neuromusculaires, dont 19 millions sur Internet. C'est un record. Allez, on part sur la Lune dans un instant.
St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. I said my case will have room with Coca-Cola. She said fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school.
Come on, people, pulp à l'instant.
La tête au carré, l'actualité des sciences. sur France Inter.
La tête au carré dans la Lune cet après-midi avec mes invités Bernard Melguen, Jean-François Clairvoix. Bernard Melguen, donc vous êtes en duplex des studios de France Bleu Loire Océan à Nantes. Vous êtes chargé de cours d'astronomie à l'Université de Nantes et puis vous êtes également conseiller scientifique à l'Espace des sciences de Rennes. Et donc vous publiez avec Catherine Sauva Lune, la face cachée de la Terre. C'est aux éditions de La Martinière. Et puis Jean-François Clairvoix, à mes côtés en studio, vous êtes spationaute donc à l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Vous avez 3 vols à votre actif dans l'espace et vous êtes actuellement PDG de Novespace, une société qui organise des vols paraboliques. Les auditeurs nous rejoignent comme tous les jours avec les questions qui arrivent déjà à franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Vous pourriez encore, Jean-François Clairvoix, repartir dans l'espace là aujourd'hui, même si vous êtes encore un jeune homme, mais quand même.
Oui, à l'ESA, nous sommes aujourd'hui une dizaine d'astronautes actifs, dont 3 Français. Léopold Dehartz, qui est celui qui a volé le plus récemment, il y a 7 ans et demi déjà. Et moi, et Thomas Pesquet, qui est le prochain à voler dans 1 an et demi. Donc, entre le prochain et le précédent, il y aurait eu un trou de 9 ans. Avant Léopold Dehartz, 6 ans. Oui. Alors qu'avant, on avait au moins une fois par an un Français dans l'espace. Donc,
ça veut dire qu'on peut encore vous réquisitionner pour partir
Ma probabilité de voler, elle n'est pas nulle, mais elle est très faible parce qu'on a très peu de place pour les Français. Il y a en gros une place tous les 2 ans pour un Européen en moyenne. Oui. Quand ça revient à un Français, c'est en gros une fois tous les 10 ans en ce moment.
Avec 3 vols, vous avez été gâté finalement.
Ah, oui, c'est rare. J'ai de la chance, des vols très différents.
Très peu ont fait 3 vols.
Des orbites et des altitudes très différentes, des missions très différentes. Mais si je vole au même âge qu'avait John Glenn, quand il a fait son 2e vol à 78 ans, c'est comme si je volais en 2036.
C'est ça, ouais.
Donc j'ai peut-être un peu d'espoir, mais il faut que je devienne sénateur et que j'aide un président à se faire réélire.
C'est ça, il va falloir faire un peu de politique. Et là, la Lune, pour l'instant, manque à votre palmarès, quand même. Ça serait formidable.
J'ai beaucoup côtoyé, je me suis entraîné en simulateur, j'ai volé sur des avions chasse avec des marcheurs lunaires, comme on les appelle. Qui n'aiment pas ça d'ailleurs, ils n'aiment pas qu'on leur demande « alors vous avez marché sur la Lune ?» Non, j'ai travaillé sur la Lune. Et au passage, ils ont marché, mais « I worked on the moon, not walk ». Et ils parlent de la Lune toujours avec cette magie et cette expérience qui reste extraterrestre.
Bernard Melguen, la Lune, ça représente un objet particulier pour les terriens, justement, par rapport à tous les autres, partout, ceux qui se trouvent dans le système solaire?
Oh oui, ça me semble tout à fait évident depuis l'histoire. En préhistoire, on n'a pas, par définition, on n'a pas de témoignages écrits, mais on a des témoignages graphiques, par exemple,
Lascaux,
dans la grotte de Lascaux.
Ça, c'est
oui. C'est pas complètement avéré, mais sous un cheval, il y a 29 petits croissants, des marques noires qui figurent les faces de la Lune, presque certainement. Donc la Lune, dans le ciel, pourquoi on est attiré par elle? C'est assez simple. C'est un corps lumineux comme le Soleil, mais à la différence du Soleil, il n'est pas éblouissant. Bon, sa lumière est douce, sa forme change d'un jour à l'autre, c'est même le premier cinéma qui existe. Existe en quelque sorte, puisque c'est une image animée. Elle bouge pas, elle se déplace dans le ciel de l'est vers l'ouest, elle est plus ou moins haute, d'un jour à l'autre elle n'a pas la même forme, et son croissant, c'est le premier ou dernier croissant, lui-même, sous une même latitude, peut-être debout, comme l'on dit, ou couché, c'est-à-dire sous la forme d'une barque céleste, d'où l'image des barques célestes ou des cornes, des bovidés. Donc c'est un corps qui interpelle depuis très longtemps, et en plus il est très commode pour mesurer le temps. Voilà.
Allez, Richard demande sur franceinter.fr, pourquoi la Lune montre toujours la même face? Est-ce qu'elle oscille toujours d'une position moyenne?
Évidemment, nous sommes à la radio et un petit dessin ou un petit schéma serait
utile,
simple. Je vais essayer de transmettre l'image. Imaginez une personne assise sur un tabouret, c'est une image classique, cette personne serait la Terre. Et vous-même, vous êtes autour et vous tournez autour de la Terre, vous êtes la Lune. Eh bien, si vous continuez à regarder la personne qui est sur le tabouret, vous remarquerez qu'en faisant un tour autour de la personne, vous avez fait aussi un tour sur vous-même. On peut le noter en regardant les murs qui nous entourent. Voilà.
Mais pour compléter avec les lois de la physique, pourquoi elle expose la même face? En fait, c'est le fait que la moitié de la Lune qui est face à la Terre est plus proche de la Terre que l'autre moitié. Je simplifie. Donc elle est plus attirée parce que la force d'attraction est plus grande. Et c'est un principe de stabilisation qu'on a utilisé dans les tout premiers satellites. Une fois en orbite, un satellite déployait une longue perche télescopique qui lui donnait de l'allongement, et cet allongement s'alignait naturellement sur l'axe de vertical de la Terre. Et c'est ce que fait la Lune. Donc la raison pour laquelle physiquement elle expose toujours la même face, c'est ce qu'on appelle le gradient de gravité. La gravité de la Terre dépend de la distance, et comme la Lune n'est pas en un point mais est un gros corps massif, il y a un côté qui est plus attiré que l'autre, et il reste toujours plus attiré que l'autre, et il reste face à la Terre.
Ce qui fait, Bernard Melguen, que pendant pendant assez longtemps, d'ailleurs, on a beaucoup fantasmé sur cette face cachée de la Lune. Hein. On a imaginé beaucoup de choses.
Ah ben quand on ne sait pas, si vous voulez, les fantômes font plus peur qu'une personne que vous croisez des visus dans la rue et que vous pouvez saluer ou non, mais voir clairement. Comme on ne voit pas, on lui a prêté toutes sortes de vertus et en même temps, la Lune étant l'image de la mort et de la résurrection, puisque selon des phrases connues de poètes ou d'historiens des religions comme Circé à Iliade, la Lune dans le ciel est comme un fruit qui croît de lui-même, ou la Lune est le premier mort qui ressuscite. En effet, la Lune, chaque jour, de la nouvelle Lune à la pleine Lune, sa forme visible apparente croît, c'est-à-dire l'éclairage sous lequel elle nous apparaît dans la lumière du soleil, elle est de plus en plus grosse jusqu'à la pleine Lune, puis après elle va diminuer, pendant 3 jours elle va disparaître, et elle va renaître. Donc l'idée dans toutes les religions et toutes les croyances de mort et de résurrection est toujours liée à la Lune. Depuis Osiris chez les Grecs, les Égyptiens, également l'image du Christ, sans rabaisser du tout la religion. Donc, de la même façon, cette Lune qui disparaît et qui réapparaît interpelle elle pose question. Donc, qu'y a-t-il derrière sa face cachée? On a cru que sa face cachée, c'était là que les âmes allaient se recycler avant d'être réincarnées. C'est une des croyances du passé.
Et il y en a beaucoup, on le découvre dans le livre justement, parce qu'il y a énormément de mythes dans toutes les cultures qui ont imaginé beaucoup de choses autour de la Lune et sur sa formation en particulier. Jean-François Clairvoy.
Je voulais juste dire que le phénomène qui fait que la Lune expose à la Terre toujours la même face, c'est le même phénomène qui fait que l'eau côté Lune est attirée par la Lune et monte, c'est les marées hautes, alors que sur les côtés, c'est marées basses. Donc le phénomène de marée est le même phénomène qui s'applique à la Lune et qui fait qu'elle nous expose la même face.
Et Bernard Melguen, malgré évidemment leur très grande différence, la Lune et le Soleil, vu de la Terre, ont exactement la même dimension, mais ça n'est qu'une coïncidence, hein.
Oui, c'est une coïncidence, comme la nature nous en montre quelques-unes et qui nous interpelle. On peut simplement dire c'est une coïncidence, on peut dire on peut aller plus loin. Bon, aujourd'hui on le constate, donc la taille apparente, la Lune, quand on la mesure physiquement, elle est 400 fois plus petite que le Soleil, son diamètre, mais c'est un astre éteint, alors que le Soleil c'est du gaz en fusion, et le Soleil, mais la Lune est 400 fois plus proche aussi, donc le Soleil est 400 fois plus loin. Et 400 fois plus gros. Donc, de toute façon, leur taille apparente est la même. On les voit sous le même angle, c'est-à-dire 1,5 degré. Et pour nos auditeurs, on peut donner une image très simple, quelle que soit leur taille. Prenez un simple crayon de bois, de couleur, tendez-le à bout de bras et vous avez 1,5 degré. Et ça suffit à cacher la pleine Lune. Même si ça semble dérisoire, la pleine Lune qui nous apparaît très grosse, en fait, 1,5 degré suffit à la cacher. Et comme la Lune fait 1,5 degré et le Soleil 1,5 degré, quand elle passe juste devant le Soleil, il y a un phénomène d'éclipse.
La Lune s'éloigne-t-elle de la Terre et à quelle vitesse, demande Viron sur le site de l'émission?
De 3 à 4 cm par an. Mais on l'a mesuré, paradoxalement, c'est parce qu'on est allé sur la Lune.
Alors c'est ça,
on a pu mesurer d'une façon précise grâce à des miroirs que les missions soviétiques et aussi américaines ont laissés. Et depuis le sud de la France, avec des tirs laser, on peut envoyer un rayon lumineux sur la Lune et il nous revient, on mesure le temps qu'il a mis. La vitesse de la lumière est en gros à 300 000 km à la seconde, eh bien on peut mesurer très très précisément au centimètre près la distance de la Terre à la Lune.
Jean-François Clairvoy, donc on a encore ces outils posés donc, par les missions Apollo et qu'on utilise toujours.
Ah oui, ces miroirs fonctionnent et le fait qu'elle s'éloigne d'ailleurs fait que son diamètre apparent, comme le disait Bernard, va diminuer et dans quelques millions ou centaines de millions d'années, je ne sais pas exactement, elle aura un diamètre apparent qui sera toujours plus petit que le Soleil, c'est-à-dire on n'aura plus jamais l'éclipse totale.
Mais c'est terrible.
Elles seront toujours annulaires, mais elles seront très jolies à voir.
Bon, ce sera dans combien de temps, Bernard Melguen? On a encore un petit peu de temps quand même, sur Terre.
Il faut faire le calcul. Hein. Voilà, En moyenne, elle est à 380 000 km de la Terre. Le plus proche, c'est 350 000. Le plus loin, c'est 406 000.
C'est pas pour tout de suite.
Il faudra encore quelques années. C'est les éclipses annulaires, comme le disait Jean-François, c'est un spectacle extraordinaire. Ouais. Moi, j'organise de temps en temps avec mes étudiants des voyages pour voir des éclipses dans des pays lointains. En Birmanie, en 2010, il y a une belle photo qui illustre le livre aussi. Il y a une éclipse annulaire dans le ciel.
C'est une sorte de diamant magnifique.
Un anneau de feu dans le ciel, c'est très magique.
Fanny demande, l'exploitation de la matière lunaire pourrait-elle avoir une quelconque utilité, Jean-François Clairvoy? On a ramené beaucoup d'abord d'échantillons lunaires ou pas?
Il y a eu environ, je crois, de l'ordre de 450 kg ramenés de la Lune. Mais les échantillons les plus intéressants sur le plan scientifique ont été ramenés par le seul astronaute des missions Apollo, qui n'était pas un pilote de formation, mais un géologue spécialiste de la Lune. C'est Harrison Jack Schmidt qui a ramené ces échantillons. Et lui, il milite beaucoup pour une ressource qui est en très grande quantité sur la Lune, mais qui n'existe quasiment pas sur Terre, parce qu'elle vient du Soleil et le champ magnétique terrestre la dévie, alors que sur la Lune, elle s'imprègne dans le sol. C'est ce qu'on appelle l'hélium-3. C'est un isotope de l'hélium avec lequel, si on maîtrise la fusion thermonucléaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça viendra un jour, permettrait de révolutionner les problèmes de sources d'énergie sur Terre. Puisqu'on estime que quelques centaines de tonnes d'hélium-3 permettraient de satisfaire la demande de la Terre entière, toute énergie confondue, pendant un an.
Ah oui, pas mal.
Mais il faut maîtriser la fusion thermonucléaire.
Donc et puis pouvoir ramener la matière.
Alors ça reste un peu de la science-fiction aujourd'hui, parce que c'est d'ailleurs le thème du film de science-fiction « Moon », qui raconte l'histoire d'une exploitation de minerais d'isotopes d'hélium-3 sur la Lune. Mais voilà, c'est un des intérêts. Mais sinon, il y en a d'autres sur le plan scientifique. Aller installer des radiotélescopes de l'autre côté, où on n'est pas pollué par les ondes de nos télévisions et de nos radios venant de la Terre. Mais sur le plan minéral, je pense que c'est la constitution de la Lune, c'est à peu près la même que la Terre. Je ne sais pas si c'est intéressant de se payer le voyage aller, d'installer des excavatrices, les systèmes. Mais peut-être que certains astéroïdes ont des minerais intéressants en plus grande quantité ou en qualité plus pure que ce qu'on trouve sur Terre.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre cette discussion. Et puis on va s'intéresser en particulier à la formation précisément de notre satellite.
Yeah. C'est ça même.
Love is the answer, love is the key.
C'est ça même.
Love is the answer, love is the key.
C'est ça même.
Love is the answer, love is the key.
Et pourquoi on s'élimine 7 milliards d'ennemis, ayo.
Love is the answer, love is the key.
C'est ça même.
Love is the answer, love is the key.
Et pourquoi on s'élimine 7 milliards d'ennemis, ayo.
Why can't you love me?
Yeah, puisque l'amour est essentiel, donne-moi un seul, je te rends deux. J'ai tant reçu du ciel, tu sais, pourtant j'en demande peu. Y'a pas de plus belle punchline, ma sœur, demande-le, que de dire Bismillah avec le cœur devant Dieu. Mon fils a de grands yeux, je fais l'effort d'un monde parfait, pour que jamais il confonde ceux qui parlent fort et ceux qui parlent vrai. M'abandonne pas au frais, t'as l'air sournois, les gens qui me connaissent le moins sont souvent ceux qui parlent le plus sur moi. Donne-moi le mic, homie, donne-moi ton mal chronique. Donne-moi tes larmes et je m'alarme comme un alcoolique. Donne-moi ton arme et je suis navré pour le mal commis. Donne-moi Abraham ou donne-moi l'abbé Pierre ou Malcolm X. La vraie valeur de paix, c'est laquelle? J'écris ce texte un 9 janvier et quelques mètres à côté, c'est la guerre. C'est pas la graine de colère qui m'inspire pour mes albums, pour le meilleur et le pire. One love,
love is the answer, love is the key.
Yeah.
Love is the answer, love is the key.
Et pourquoi on s'élimine 7 milliards d'ennemis, ayo.
Why can't you love me?
Love music.
Love is the answer, love is the key.
Yeah.
Love is the answer, love is the key.
Et pourquoi on s'élimine 7 milliards d'ennemis, ayo.
Why can't you love me?
Yeah.
Yeah, I'm a believer, for I believe in love, and I believe it's time for us to rewrite the laws. I do believe in justice and freedom of speech, but what is all of that if you can't find no peace? If there ain't no respect and no equality, but prejudice, corruption, and false prophecies. There's war in the West, there's war in the East. What we need is love to kill the beast. He's the soul, the spirit, Yahweh, the maker, divinity, Lord. He's almighty God, Allah, power, master, Jah, but above it all, the creator. He's the soul, the spirit, Yahweh, the maker, divinity, Lord. He's almighty God, Allah, power, master, Jah, but above it all, he's the creator.
Love is the answer, love is the key. Love is the answer, love is the key.
Et pourquoi on s'élimine 7 milliards d'ennemis, ayo.
Why can't you love
la
me?
Music.
Love is the answer, love is the key.
Yeah.
Love is the answer, love is the key.
Et pourquoi on s'élimine 7 milliards d'ennemis, ayo.
Why can't you love me?
C'est pour les 100 voix devenues porte-parole. C'est pour ceux qui ont perdu la tête pour retrouver leur cœur. C'est pour les savants qui ont encore des doutes. C'est pour les amnésies qui n'ont jamais oublié d'aimer. Message de paix en temps de guerre, comme dirait l'autre. C'est l'effort de compassion. Indignez-vous pas seulement pour vous, indignez-vous aussi pour les autres. Kimia pona binonyoso. Primes.
Why can't you love
c'est ça même. C'est ça même. C'est ça même. Yeah.
Why can't you love
c'est ça même.
Me?
Love Music, la rencontre entre Youssoupha et Ayo sur France Inter. Bernard Melgen avec nous, astronome en duplex de Nantes pour ce livre Lune, la face cachée de la Terre. C'est avec Catherine Sauva aux éditions de La Martinière. Un livre où on apprend beaucoup de choses et où on voit aussi beaucoup de choses puisqu'il y a une très belle iconographie. Et puis Jean-François Clairvoy, spationaute à l'ESA. Également pour répondre à toutes vos questions, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Bernard Melgen, est-ce que les mythologies nombreuses à s'intéresser à la Lune ont donné beaucoup d'explications quant à sa formation ?
Oui, ce qui est très intéressant, la plupart de mes collègues astronomes, astrophysiciens s'intéressent à la science pure et dure. Moi, j'ai peut-être dû, à mon enfance bretonne, de m'intéresser aussi aux mythologies et à mes études aussi. Et en creusant profondément, pas en surface, bien sûr, en méditant un petit peu les légendes et les mythologies de différents peuples de la Terre, plusieurs coïncidences qui n'en sont plus au bout d'un moment. C'est comme si, par intuition, les hommes avaient peut-être devancé la pensée rationnelle. La pensée rationnelle est indispensable à la science, bien entendu. Un exemple pour la formation de la Lune, dans toutes les mythologies, qu'elles soient inuites, qu'elles soient chez les Aztèques, qu'elles soient en Chine, chez les Grecs, bien sûr, et chez les Égyptiens, on trouve un point commun, c'est que la Lune est toujours née d'un acte violent, d'une violence qui lui a été imposée. Or, aujourd'hui, la dernière hypothèse qui semble, qui fait pour l'instant l'unanimité de la communauté internationale, c'est que la Lune est née d'un acte violent. Il y a un astre impacteur de la taille de Mars, je le répète. On l'a surnommé Théia, parce que dans la mythologie, c'était la mère de la Lune, c'est l'aînée. Et donc, cet astre impacteur, avec une grande violence, aurait frappé la Lune, non pas frontalement, mais tangentiellement, en arrachant un morceau de roche qu'on retrouve dans la Lune, un peu transformé, et par le champ gravitationnel de la Terre étant suffisamment intense, tous ces débris se sont recomposés, sont restés prisonniers du champ gravitationnel de la Terre, et ça, c'est devenu notre satellite, en remarquant quand même que la Lune, parmi tous les corps du système solaire, nous sommes le seul à avoir un seul satellite, la Terre, et ce satellite, dans le ratio par rapport à la masse de la Lune et la masse de la Terre, c'est le plus gros satellite qu'une planète ne possède. Donc c'est un corps double dont on comprend mieux la destinée et la mécanique céleste. Il faut considérer la Terre et la Lune.
Jean-François Clairvoy, la Lune c'est aussi un bouclier finalement pour la Terre ?
Ah, peut-être, oui, parce qu'elle a sa force gravitationnelle, mais elle n'est pas partout à la fois. Donc, elle peut nous protéger de certains impacts, mais
un astéroïde
qui passe par une trajectoire qui est loin de celle de la Lune, il pourra venir.
Il y a beaucoup
nous.
De cratères quand même sur la Lune, donc on voit qu'elle nous a servi aussi un peu à nous protéger, parce qu'elle est très marquée par ses impacts. Oui.
Mais probablement la Terre a été très bombardée aussi, mais le vivant, d'une part, et d'abord la tectonique d'autre part, ont effacé les traces d'impact, mais il y en a probablement eu beaucoup. Et d'ailleurs, on pense que l'espèce des dinosaures, les très grands reptiles, ont disparu, mais sur des centaines de milliers ou millions d'années d'ailleurs. Ça ne s'est pas fait instantanément, surtout suite à un impact d'astéroïdes.
Bernard Melgen, dans votre livre, on découvre que la Lune est à la base des premiers calendriers. Donc il y a tout un rapport temporel à la Lune qui est extrêmement important, pour les humains comme pour les animaux d'ailleurs. Et on va écouter l'extrait d'un documentaire intéressant qui nous parle des poissons sur une plage de Newport Beach aux États-Unis. Des centaines de poissons qui s'échouent volontairement pour assurer leur descendance. Et la Lune ne serait pas étrangère à ce phénomène.
Il est minuit à Newport Beach, à la périphérie de Los Angeles. Totalement sur deux, ils arrivent juste à l'heure. Ces poissons, appelés grugnons, arrivent sur cette plage cette nuit dans un créneau précis de 2 heures. C'est vraiment incroyable. Je n'ai jamais rien vu de pareil de toute ma vie. En quelques minutes, il y en a des centaines, puis des milliers qui répondent tous au signal. Mystérieusement, sans boussole, sans système GPS, sans montre, sans calculatrice, ils sont capables de se diriger à travers l'océan Pacifique. Ils savent venir ici à Newport Beach, juste à l'heure, et avec la précision d'une horloge. Ils sont venus pour s'accoupler. Ils n'ont que 2 heures. 2 heures pour assurer la continuité de l'espèce. Ils ont un excellent rythme biologique. Et ils ne se trompent jamais. S'ils n'ont pas un bon rythme biologique, l'espèce disparaîtra. Les grognons parviennent à atteindre cette précision en suivant les signaux de la Lune et des marées, mais ils n'en ont pas conscience. Leur précision est purement instinctive.
Bernard Melguen, alors certains animaux, comme ces poissons, se servent des cycles lunaires comme repère ?
Oui, leur nombre est très très grand, on en découvre peut-être encore chaque jour. Mmh. La difficulté de faire le point sur cette question de l'influence de la Lune, d'ailleurs c'est Blaise Pascal qui disait « ce qui fait qu'on croit tant de faux effets de la Lune, c'est qu'il y en a de vrais ». Voilà, on ne prête qu'aux riches en quelque sorte. Alors il faudrait être à la fois biologiste et puis astronome et astrophysicien, puisque ça serait une pensée transversale qui ferait le lien entre les deux. Comment la Lune influence-t-elle le vivant ? On peut que le constater. Alors, une première piste, c'est de dire la lumière de la Lune est captée par des animaux marins. Une autre piste, c'est de parler de microgravité. Mais il y a une autre piste encore, c'est de dire que la vie est née dans les océans, ça personne ne le conteste. D'ailleurs, si elle est sortie des océans, on pense que c'est à la faveur de marées puissantes, puisque comme la Lune s'en va, on en avait parlé tout à l'heure, mm-hmm. Elle était donc plus près à un moment. Et étant beaucoup plus proche de la Terre, elle générait des marées considérables qui a jeté la vie sur la terre ferme. La plupart des organismes vivants, algues et animaux sont morts, d'autres se sont adaptés et ainsi la Lune a favorisé la colonisation de la terre ferme par les animaux. Donc cette vie qui a été pendant des milliards d'années dans les océans, heureux comme un poisson dans l'eau, qui aurait pu ne pas en sortir, peut-être que tous les êtres vivants, enfin la plupart, ont regardé un rythme, une horloge biologique qui ne serait pas une horloge circadienne de 24 heures, mais une horloge plutôt de 25 heures, qui est le rythme de la Lune.
Oui. Alors justement, c'est une hypothèse intéressante. Il y a des choses très intéressantes à ce sujet-là, puisque la Lune agit aussi visiblement sur les fonctions de notre corps. On va écouter le spéléologue Michel Siffre, qui a mené sous terre en 62 une expérience d'isolement de très longue durée, donc sans voir le jour. Et précisément, il corrobore un peu ce que vous venez de nous dire.
L'idée que j'ai eue, c'est ça l'idée maîtresse de ma vie, en fin de compte, c'est de vivre comme un animal, spontanément. Quand j'avais faim, je mangeais. Quand j'avais besoin de faire pipi, je faisais pipi. Quand mon organisme avait besoin de dormir, je me couchais, et c'était mon corps seulement qui me réveillait. En 1962, on croyait que le rythme biologique humain était basé sur le rythme terrestre de 24 heures, alors qu'on s'est rendu compte avec mon expérience que ce rythme était de 24 heures 30, et par la suite, de nombreuses expériences ont été faites à l'étranger et les miennes pour montrer que ce rythme était beaucoup plus labile, était beaucoup plus large. En général, la moyenne humaine reconnue aujourd'hui, c'est d'environ 25 heures.
Voilà, donc la Lune va se nicher jusque dans la chronobiologie, Jean-François Clairvoy.
Oh oui, c'est sûr que si la Lune n'avait pas existé, on n'aurait pas connu, comme le disait Bernard, l'évolution du vivant terrestre qui vit selon le cycle des saisons, que ce soit les plantes, les animaux, nous-mêmes. On observe les saisons. Les saisons existent parce que la Terre a un axe qui est stable, l'axe de rotation, et l'axe est stable parce qu'il y a la Lune qui le stabilise. Donc c'est clair que la Lune a... Sans la Lune, on aurait peut-être quand même eu du vivant sous forme bactérien ou élémentaire dans l'océan, mais l'évolution qu'on connaît du vivant sur Terre vient certainement...
Pour les spationautes, dans les stations spatiales, justement, est-ce que la Lune a une certaine influence ou pas ?
Alors la Lune est très belle à observer.
Sur vos rythmes biologiques
À ce jour, tous les astronautes, à part quelques exceptions, sont des professionnels qui travaillent. On a besoin d'être en relation avec nos équipes au sol, donc on est obligé d'être calé sur un fuseau horaire terrestre. Mmh. Donc notre plan de vol est calé sur un cycle de 24 heures avec 8 heures de sommeil. Et donc on n'est pas sur le cycle naturel du corps humain qui serait plus proche de 25 heures.
Bernard Melguen, question de Jacques. Est-ce que la présence de l'eau a été constatée sur la Lune ? On parle souvent de rosée lunaire.
Oui, de toute façon, la question est encore en débat. Il y a sans doute, et peut-être que Jean-François Clairvoy me sera d'un meilleur secours, il y aurait de l'eau sous forme gelée en profondeur sur la Lune. Mais il y a des cratères, Jean-François le confirmera, il y a des cratères lunaires qui n'ont jamais vu la lumière du jour. Oui. Donc il faudrait aller in situ, qu'il ira lui-même, puisqu'il le souhaite, vérifier pour avoir la réponse. Aujourd'hui, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, il n'y a pas d'eau liquide sur la Lune comme sur la Terre, mais il peut y avoir des traces d'eau congelée.
C'est les raisons qu'évoque Bernard qui font que le programme Constellation de la NASA, avant qu'il soit abandonné par Obama, consistait à installer une base habitée en permanence au pôle sud, tout près d'un cratère, le bassin d'Aiken, pour justement pouvoir aller explorer le fond de ce bassin où le soleil n'est jamais apparu depuis des milliards d'années et où on pense qu'on accède au manteau de la Lune direct sans la poussière. Donc on voit directement s'il y a de la glace ou de l'eau.
Donc il y a encore plein de mystères finalement. Ça n'est qu'à 380 000 km de nous, mais on ne sait pas tout loin de là. Et on parlera des enjeux de l'exploration lunaire avec vous dans un instant. Les messages et les questions toujours sur franceinter.fr. Arias Moore et Jean-Michel Montu pour la programmation musicale de notre Tête au Carré.
La Tête au Carré sur France Inter.
Voilà Bernard Melgen, astronome en duplex chez nos amis de France Bleu Loire-Océan à Nantes pour nous parler de ce livre que vous publiez, Lune, la face cachée de la Terre aux éditions de La Martinière. Et puis Jean-François Clairvoy, spationaute à l'ESA. À qui appartient la Lune, Bernard Melgen, tiens?
Ah, on pourrait aussi en parler avec Jean-François. Je crois qu'elle n'appartient à personne. Hein. S'en rendre propriétaire, des noms ont été donnés aux différents cratères, aux mers de la Lune. Sur la face cachée, il y a plein de noms soviétiques, parce que les Russes sont les premiers, les Soviétiques, à avoir photographié la face cachée de la Lune. Mais aujourd'hui, c'est un peu comme l'Antarctique, qui ça serait le rêve d'une universalité, d'une propriété de l'humanité entière.
On lit dans votre livre qu'un traité sur la Lune a été négocié dans les années 70, mais il n'a pas été signé par les grandes puissances spatiales, pourtant susceptibles d'y mener un jour des activités, Jean-François Clairvoy.
Oui, mais en pratique, tous sont d'accord pour dire qu'elle appartient à personne, et que, quelle que soit la puissance spatiale qui veut aller l'étudier, il fera attention à envoyer une sonde qui soit bien stérilisée avant d'aller polluer éventuellement des micro-organismes éventuels. Ouais.
Les Européens, ils ont beaucoup de missions là, lunaires ou pas?
Alors les Européens ont lancé il y a une dizaine d'années une sonde SMART qui a mis longtemps pour atteindre la Lune depuis l'orbite basse terrestre. Elle a mis 9 ou 10 mois, mais elle a utilisé qu'un dixième de son carburant parce qu'elle n'a utilisé que des moteurs ioniques. Donc des moteurs beaucoup plus efficaces que les moteurs chimiques. Typiquement, avec la propulsion chimique comme le programme Apollo, il faut consacrer la moitié de la masse du vaisseau en carburant pour aller vers la Lune et revenir. Mm-hmm. Mais avec Smart, on n'a consommé qu'un dixième. Et on est en train de développer aussi en Europe un atterrisseur lunaire qui pourrait très bien s'intégrer dans tout programme d'exploration future, habité ou pas, des Chinois, des Américains, des Russes, si on y retourne ensemble.
En tout cas, déjà, des acteurs privés s'intéressent, lorgnent sur la Lune. C'est le cas, par exemple, de SpaceX, cette entreprise américaine spécialisée dans les vols spatiaux, avec à sa tête le milliardaire Elon Musk.
We've got to restore...
Nous devons redonner aux États-Unis la capacité de transporter des astronautes avec ses propres véhicules, et c'est ce que nous espérons faire d'ici deux ans. L'étape suivante serait d'envoyer des gens au-delà de l'orbite basse de la Terre, autour de la Lune, peut-être même se poser sur la Lune, juste pour prouver qu'on en est capable. Ensuite, nous devons développer une navette beaucoup plus grande qui serait en quelque sorte un système de transport colonial d'envergure. Je parle d'une fusée plus grande que tout ce qui a été construit auparavant et qui ferait passer la fusée Apollo pour un petit engin. Voilà ce qu'il faudrait pour arrêter à m'envoyer des millions de personnes et des millions de tonnes de matériel sur Mars, ce qui serait le minimum pour envisager une civilisation autosuffisante sur Mars.
Voilà, Bernard Melgan, depuis Méliès, Jules Verne, évidemment, les missions Apollo, les rêves lunaires se poursuivent toujours, on le voit.
Ben ce qui m'amuse, moi, c'est de voir que finalement, la Lune a sorti, fait progresser la vie et les hommes. Première image, la vie est dans les océans. Il y a 400 millions d'années, la vie sort des océans, à l'occasion notamment des grandes marées lunaires. Ensuite, attirés par la Lune, ben, les hommes quittent la Terre. Comme disait le russe Tchaïkovski, la Terre est le berceau de l'humanité, mais ce n'est pas la vocation d'un homme de rester toute sa vie dans son berceau. Donc, quelque part, à la fois par l'imagination et puis très concrètement par des enjeux aussi stratégiques, bien entendu, eh bien la Lune nous attire, nous fait rêver et en même temps nous met en mouvement. Elle met non seulement en mouvement l'eau des océans par les marées tous les jours, mais elle met en mouvement notre imaginaire et aussi des sommes économiquement et stratégiquement, techniquement, des gros moyens.
Jean-François Clairvoy, la Lune, ça va être le passage obligé quand même dans la suite de l'exploration spatiale ou pas? Parce qu'on parle beaucoup de Mars, mais via la Lune précisément?
Je pense que c'est pas obligé, mais ce serait la chose la plus sage à faire, non pas pour décoller depuis la Lune pour aller vers Mars nécessairement, mais apprendre sur la Lune, où on est à proximité de la Terre, on la voit, on converse avec la Terre, on peut facilement aller secourir ou ravitailler des équipages qui sont sur la Lune, répéter les opérations d'exploration martienne sur la Lune, pour mettre au point le scénario et les opérations. Maintenant, les technologies seront différentes parce que les environnements sont différents, mais apprendre sur la Lune à s'installer sur un autre corps céleste, je pense que c'est la chose la plus sage à faire que d'aller direct vers Mars, où d'un seul coup on franchit un grand saut dans l'astronautique avec des risques énormes.
Donc tu as des opérations pour les répétitions et avant le voyage martien. Voilà. Donc, donc à quel horizon, à votre avis, est-ce qu'on sera capable vraiment techniquement d'installer des bases sur la Lune ?
Oh, sur la Lune, on peut commencer dans les 20 ans qui viennent, peut-être pas habiter en permanence, mais si une grande puissance spatiale décide, même, et en coopération avec d'autres, d'installer une base lunaire, ça peut se faire en 15 ans, quoi, typiquement. Oui.
Bernard Melgan, on a des drôles de questions parfois qui nous arrivent sur franceinter.fr. Julie, par exemple, demande « Qu'en est-il des liens entre les cycles lunaires et menstruels ?» Vous avez, vous, une réponse à cette drôle de question ou pas ?
Oh si, j'ai une réponse. Il faut quand même pas. C'est vrai que c'est une coïncidence, mais toutes les femmes n'ont pas leurs règles le même jour, en même temps, à la même pleine lune, etc. Ça se saurait. Non.
Donc on laisse la lune de côté.
Non, pour l'instant, tous les biologistes disent qu'il s'agit d'une coïncidence. De même qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il y a plus de naissances à la pleine lune. Non, les statistiques sont faites. D'ailleurs, un de mes amis, ingénieur à l'INSEE, m'a dit « Aujourd'hui, on est aux heures de bureau. » Il y a tellement de moyens techniques, si tu veux. Puis les gynécologues qui ont besoin de leur week-end, et on les comprend, eh bien, il y a aussi des moyens de gérer un peu les naissances. Bon. Donc aujourd'hui, ce sont des vieilles lunes, mais non.
C'est le cas de le dire.
Parmi tout ce qu'on peut retenir sur la lune, il y a quelques vérités. Mais
pas
aussi,
celle-là.
Pas celle-là, je pense pas. Non.
Bon, mais vous avez répondu. En tout cas, merci pour cette auditrice. La suite des opérations, Jean-François Clairvoy, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux acteurs. Alors, on entendait tout à l'heure cet acteur privé, Elon Musk, avec SpaceX. Mais les Chinois aussi sont toujours très intéressés. On évoquait très rapidement tout à l'heure le lapin de Jade, là, qui a posé donc, ses pattes sur la Lune.
Oui, les Chinois veulent démontrer à eux-mêmes et au monde qu'ils sont capables de prouesses technologiques dans le domaine spatial à égalité avec les autres grandes puissances spatiales. Ils ont une feuille de route qui a consisté à maîtriser les lanceurs, Longue Marche pour les lancements de satellites. Mm-hmm. Ils ont leur propre GPS qui s'appelle Beidou. Ils ont leur propre satellite scientifique d'études du climat, de les océans, mm-hmm. Sur lesquels on coopère en Europe.
Oui.
Leurs propres vols habités, astronautes. Ils ont maîtrisé la sortie dans l'espace, le rendez-vous automatique, manuel. Ils ont une station dans l'espace en ce moment inhabitée, mais qu'ils habitent de temps en temps.
Oui.
Ils ont des sondes interplanétaires, donc une qui s'est posée sur la Lune, une autre qui est autour de Mars. Donc, petit à petit, ils s'affichent à un niveau de compétences qui justifiera et qui légitimera le fait qu'ils rentrent dans le partenariat global déjà existant entre les Russes, Américains,
oui.
Européens.
Et les Indiens aussi, hein, faut pas les oublier.
Les Indiens ont la même ambition, ils sont un peu en retard, mais ils y arriveront aussi.
Oui. Bernard Melguen, un dernier mot sur votre ouvrage, hein, La face cachée de la Lune, qui est vraiment un livre aussi d'images, c'est important, parce qu'il y a des très beaux documents avec Catherine Sova. Et vous avez interviewé...
Vous avez
interviewé aussi des spécialistes, hein, nombreux, pour témoigner, réagir.
Ah oui, ça c'est une des fiertés du livre aussi, c'est d'avoir ponctué d'une douzaine de spécialistes dans toutes sortes de domaines. Mm-hmm. Jean-François Clairvoy est l'un d'entre eux, Claudie Aigneret, il y a aussi le William Hartmann, l'astrophysicien associé à Robin Canup, qui a produit cette hypothèse validée aujourd'hui au plus près de la formation de la Lune, des biologistes aussi. Mm-hmm. Oui, bien sûr, on donne la parole à des experts. Et
voilà.
D'ailleurs, ce livre est en parallèle avec trois films diffusé, produit par Caméra Lucida et diffusé par, Canal+, La Lune face cachée de la Terre. Donc, les interviews de ces personnes figurent aussi dans les films. Voilà.
Et tout ça est en lien, évidemment, sur le site de La Tête au Carré. Donc, ce livre à découvrir aux éditions de La Martinière avec Catherine Sova et Jean-François Clairvoy. Très vite, pour terminer.
Oui, juste un rôle très important qu'a eu la Lune avec Apollo 8, c'est que pour la première fois, des humains ont vu la Terre au-dessus de l'horizon d'un autre astre. Et ça a été une grande révélation qui a initié tous les mouvements environnementalistes qui ont commencé à fleurir sur Terre.
Donc la Lune, toujours la Lune. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Et merci aux équipes de France Bleu Loire-Océan qui nous ont permis de réaliser au pied levé ce duplex.